Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Puisque vous êtes unique au monde, nul autre que vous-même ne peut savoir ce qui est juste et bon pour vous. Ainsi parle mon invitée, une enseignante et conférencière qui nous invite à explorer nos richesses intérieures. Elle est compositrice, chanteuse, et sa voix ne vous trompera pas, auteure de livres best-sellers comme le livre sur la nutri-émotion et le pouvoir de l'accueil. Nous allons explorer avec elle comment vivre notre formidable odyssée intérieure et créer une vie qui nous correspond vraiment. Je suis absolument ravie d'accueillir Nasrine Reza dans Métamorphose. Bonjour Nasrine.
Bonjour Anne, je suis ravie d'être là avec toi.
Ben oui, moi aussi. Alors on enregistre dans un grand bar d'un hôtel. Voilà. Donc on espère que le son va être bon. Alors Nasrine, comment est-ce que tu t'es révélée comme guide intuitive pour accompagner les personnes? Comment cela a-t-il jailli en toi? Je crois que c'était toute petite déjà.
Oui, en effet. En effet, si tu veux, Anne, quand j'étais petite, je me suis aperçue à un moment donné que pas tous mes copains et copines de classe avaient des voix dans leur tête qui leur transmettaient des informations face aux personnes qui nous entouraient. Donc, c'était là une grande révélation pour moi. J'avais à peu près 5 ans. Mmh. Et j'ai fait part de cela à mes parents, qui au début étaient un peu inquiets, en se disant « Ouh là là, mais oui. Quelles sont donc ces voix ?» Et puis pour finir, on s'est bien rendu compte qu'il s'agissait simplement d'intuition, une intuition que tout le monde possède. Sauf que chez moi, disons que le volume était plutôt fort.
D'accord.
Donc elle était toujours à l'avant-plan. Mmh. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai d'abord lutté beaucoup. Parce que je voulais ressembler aux autres, je me sentais un peu exclue. Les gens me regardaient un peu comme une extraterrestre. Et ça m'a beaucoup fait souffrir pendant un certain temps. Et à un moment donné, j'ai découvert le pouvoir de l'accueil, qui m'a permis de m'accueillir, d'accueillir toutes les facettes qui me composent, pour que je puisse vivre déjà avant tout. et pour que je puisse davantage encore explorer toutes ces richesses intérieures qui nous habitent et qui, par soif de normalité, peuvent être totalement détruites. Donc j'avais envie, par la suite, quand j'accompagnais les gens, j'avais envie de mettre ça en lumière, de leur dire « mais chacun est unique au monde, on a 7 milliards de lumières différentes, de couleurs qui vibrent ». Et je crois que pour l'être humain, la plus belle récompense à la fin de sa route est d'avoir la saveur, sa propre saveur en bouche.
Oui, on va y revenir longuement, Nasrine. Alors, comment est-ce que tu parlais de ces voix que tu entendais plus jeune et de cette différence? À quel moment tu t'es dit, bah, finalement, j'ai envie d'aider les autres par rapport à ça?
C'est au moment où j'en pouvais plus, au fait.
Oui.
C'est à ce moment-là où tout a basculé. C'est devenu évident qu'au fait, ce que je considérais comme une anormalité chez moi, comme une espèce de défaut de fabrication, pouvait être un révélateur de guérison pour tous.
Une pépite, en fait.
Exact, exactement.
C'est comme ça que c'est venu. Alors pour toi, tu dis que l'incarnation déclenche l'identification à une personne créée de toutes pièces et qui vit à travers une sorte de réalité, comme si on était dans une espèce de Matrix, finalement, si on prend une analogie avec ce film, et qui est à la fois qui nous sommes, mais aussi qui nous ne sommes pas, finalement. On est à la fois cette réalité, mais à la fois nous ne la sommes jamais.
Oui, absolument. C'est vrai que j'aime bien ton analogie avec Matrix. Je pense que beaucoup pourront comprendre si on parle de Matrix.
Oui, c'est vrai.
Mais il est vrai que quand on évoque le sujet de l'incarnation, pour moi, comme tu le disais, c'est en lien vraiment avec une forme d'identification à cette entité vivante. Mm-hmm. Donc, quand je demande aux gens, mais quand est-ce que pour la première fois, tu as fait l'expérience de cette essence que tu crois être tienne dans cette dimension-ci? Est-ce que tu peux retracer ou replacer à un moment précis quand ce « moi, je suis ça » est apparu? Finalement, on ne le peut pas.
Oui.
Donc, ça s'est manifesté, on ne peut pas retracer, c'est comme quelque chose qui est totalement de l'ordre de l'impalpable. Donc, c'est comme quand on fait un rêve et qu'on ne sait pas qu'on rêve. C'est quand on se réveille qu'on sait qu'on a fait ce rêve. Donc, c'est comme le film Inception. Inception, oui.
Inception, oui.
pour ceux qui ont vu le film, là, entre Matrix et Inception, on peut faire des analogies. Mais donc, ce corps physique, mental, système émotionnel, cette équipe terrestre, est pour moi, c'est comme un filtre, au fait, qui me permet d'aller expérimenter la dimension terrestre à travers ces trois supports. Mais je ne suis pas ces supports. C'est comme quand je prends ma voiture, je sais que j'occupe cet espace, mais je ne suis pas cet espace. Mmh. Je ne suis pas ma voiture. Donc, ça me permet de vivre la vie quelque part. C'est faux de le dire comme ça, mais c'est pour donner un avant-goût de deux manières différentes. Mmh. Je peux totalement me confondre avec un corps physique, avec un mental, des pensées, des émotions, et me dire « waouh, comme c'est intense la vie ». Mais je peux par moments aussi juste me remémorer que c'est mon support d'expérience, mais que je ne suis aucune de ces expériences fondamentalement.
Et en même temps, je le suis. Tu dis « nous le sommes et nous le sommes pas ». Et en même temps, même sans s'identifier, nous sommes aussi ce corps.
C'est ça, c'est que tu vois, on ne peut pas séparer l'énergie, on ne peut pas la scinder en deux. Mais c'est toujours trompeur parce que dès l'instant où on utilise des mots et qu'on veut expliquer quelque chose, on doit isoler une énergie pour pouvoir lui donner un contraste. Donc l'unité, on ne peut que parler d'elle si on part à partir d'une perspective très duelle, au final.
Bien sûr. Parce que si on prend l'analogie avec la voiture, c'est sûr que la voiture est extérieure à moi-même, alors que le corps, mes cellules, sont aussi une partie de mon âme, quelque part.
Alors, on pourrait dire ça, bien sûr, parce qu'à nouveau, on ne peut pas créer de division. C'est une partie, mais ça n'est pas le tout. C'est surtout là où on fait la différence, parce que beaucoup d'êtres humains souffrent aussi parce qu'ils pensent que c'est un tout, qu'ils n'ont que ça.
Oui.
Alors que c'est juste une facette possible d'expérimentation parmi tant d'autres. Il y a tant d'autres réalités qui se chevauchent à cet instant-ci. Mais si je crois être cet être humain, alors je peux uniquement vivre à travers ce filtre, à travers ces lunettes, qui est l'idée, je suis ce bipède qui est assis là avec Anne. Mais si j'arrive à me dissocier de cela, alors j'ai d'autres réalités qui se manifestent à moi aussi.
Alors Nasrine, c'est pour ça que tu dis qu'en fait, on peut voir la vie comme une sorte de mise en scène, un théâtre, quelque part.
Oui, en effet, j'aime beaucoup utiliser cette image, justement pour permettre aussi la désidentification. Donc, la vie, cette mise en scène, elle se gère d'elle-même fondamentalement. Si on prend le corps, par exemple, on voit bien que toutes ces fonctions sont autogérées. Le cœur bat tout seul, j'ai rien, j'ai aucun effort à faire pour que tout cela puisse fonctionner. Les pensées jaillissent d'elles-mêmes, les émotions viennent agrémenter le tout. Tout ça se donne dans une espèce d'orchestration naturelle et régie par un mécanisme qui est propre à la vie. Donc, ce qui se passe sur scène, c'est ce qui est propre à la vie. Le corps, le mental, le système émotionnel sont inhérents à la vie. C'est la vie qui gère tout ça pour moi. Il n'y a pas une entité hors vie qui puisse proclamer être le grand contrôleur de toute cette mécanique. Mais moi, ou de dire moi c'est faux, mais il y a quelque chose qui observe tout ça, qui observe le corps, les pensées, les émotions, c'est l'observateur. C'est celui qui est, je vais mettre une image là, une autre, un peu drôle, qui est confortablement installé dans son siège, à manger des pop-corn et à se délecter de ce spectacle qui s'offre à lui.
Qui est cet observateur ?
Alors cet observateur, pour moi, on peut lui donner un autre nom qui serait de l'ordre de la conscience, en fait. Mais quand on parle d'observateur, c'est faux de le passer comme ça. C'est pour ça que les mots sont traîtres. Il ne s'agit pas d'une entité spécifique. C'est comme une conscience qui permet à la manifestation d'exister. Mmh. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un observateur Nasrin qui est là en train de manger des pop-corn et à sourire en me voyant parler ici, à passer ce merveilleux moment avec Anne. C'est plus de l'ordre d'une conscience. On n'est plus dans une forme duelle. Il n'y a pas d'individualité dans l'observateur.
Mmh. On peut parler de conscience non localisée, justement ?
Oui, absolument, absolument. C'est une conscience, comme tu dis, non localisée. C'est comme un espace qu'on ne peut pas localiser et qui est comme un peu la lumière, au final, qui se projette sur l'écran. Et c'est la vie qui, après, va amener des teintes, des couleurs, des mouvements, un début et une fin à cette lumière, initiale.
Ouais. Comment est-ce qu'on peut se désidentifier pour prendre conscience à la fois de cette mise en scène, sans non plus qu'elle se joue de nous quelque part.
Oui, alors comment est-ce qu'on peut se désidentifier ? Il y a un moment très précis, le matin, quand l'être humain se réveille, il y a une fraction de seconde où ça ouvre les yeux et où ça ne sait pas s'identifier ou se reconnaître. C'est très subtil comme moment, mais je suis sûre si on porte notre attention là-dessus, le matin, quand on se réveille, on verra qu'il y a un moment, une fraction de seconde, où la mémoire n'est pas encore là.
Oui.
Donc, elle n'est pas en train de se projeter. Donc, ça arrive très souvent quand on part en vacances. Le premier matin, quand on se réveille, hein, on a en mémoire d'être chez nous, de voir le même plafond. Ben là, quand on est en vacances, on se réveille et on ne reconnaît pas les lieux. Donc, il y a ce moment de battement d'espace vide.
D'inconscience presque.
Exact, exact. C'est comme s'il ne subsistait que cette conscience. Mais donc ta question, excuse-moi Anne, au final c'était quoi ?
Comment se désidentifier ?
Ah oui, voilà, exactement. Donc en fait, cette désidentification, elle se produit naturellement déjà le matin. Si je porte mon attention là-dessus, au cours de la journée, ça va continuer à se faire. Pas tout au long de la journée, mais par des moments précis où d'un coup, je me rappelle ce moment où je ne suis pas quelque chose en particulier. Donc, juste par le fait d'observer ce premier moment le matin, ça va pouvoir se maintenir par la suite.
Toi, tu recommandes de le faire tous les matins jusqu'à ce qu'on ait conscience de ça ?
Ou
tu continues à le faire aussi pour toi-même ?
Non, c'est quelque chose qui se met en place après, tout seul, où on a l'impression de vivre un peu à deux niveaux. En tant qu'être humain, hop, c'est comme si je suis sur la chaîne numéro 1, là je me prends comme un être humain. Oui. Ben, la chaîne numéro 2 où il n'y a plus que ce qui est, où je n'épouse pas une forme précise, où je ne suis pas quelqu'un avec des idées préconçues, où je ne suis pas limitée. Donc je peux jouer sur ces deux plans, goûter autant à l'un qu'à l'autre.
Oui, c'est une manière de les réunifier, de ne pas être dans la dualité, de switcher ou d'être les deux en même temps.
C'est ça, j'ai vraiment envie de dire de s'amuser avec deux réalités conjointes qui nous sont offertes. Et pour moi, c'est de l'ordre de l'exploration, sans but précis non plus, sans vouloir émettre de conclusion jamais, parce que sinon la découverte n'est plus possible, mais juste pour s'adonner à cela, pour expérimenter, s'amuser comme quand on était enfant. L'enfant, il joue, pas dans un but précis, il a une nouveauté dans ses mains, un nouveau jouet, il veut juste s'adonner à ça et expérimenter, goûter la chose. Donc, mon invitation est aussi simple que cela.
Quand il arrive quelque chose qui semble extérieur à soi, un événement, un drame, voilà, que ce soit dans le monde ou dans sa famille, dans ses proches, auprès de ses proches, on a tendance à le voir comme extérieur et à se dire « il vient de m'arriver quelque chose ». Comment dans ce cas ne pas s'identifier justement à ce qui se passe ?
Alors tu sais Anne, je crois que c'est normal et que c'est très important pour l'être humain de s'identifier. parce que il a besoin, lui, de vivre des émotions. C'est un être hautement sensible et je pense qu'il serait dommage de lui ôter cette partie-là. Donc, je ne veux pas exclure une ou l'autre chose. J'aime l'énergie inclusive. Mmh. Donc, j'invite vraiment l'être humain, quand un événement se produit, de s'abandonner à ce qui se passe, à observer en lui tout ce qui se manifeste en lui pour qu'il puisse mieux danser avec son équipe terrestre, corps, mental, émotion. Une fois que ceci est fait, une fois que ceci est accueilli, c'est pour ça que je parle souvent du pouvoir de l'accueil, ça crée au fait un espace de détachement, de désidentification. Ça se produit tout seul. Mmh. Or, la plupart des êtres humains restent confinés dans quelque chose de très identifié, de très souffrant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas souffrir, la vie est souffrance aussi. Mais ils n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils n'offrent pas cet espace d'accueil. Quand on offre cet espace d'accueil, ok, là je souffre, il y a de la douleur, si je souffre en tant qu'être humain, oui, je le sens bien. Quand je me donne cet espace, un détachement se crée naturellement et on peut voir les choses d'un autre point de vue. Donc je n'invite pas à se dire maintenant je vais faire comme ça pour me détacher. Je pense que ça rendrait l'être humain dysfonctionnel fondamentalement et se transformerait en robot peut-être.
Oui, ou ce serait peut-être des attitudes schizophrènes.
Aussi également, on pourrait percevoir ça comme ça, tout à fait.
Alors, tu as développé la nutri-émotion qui permet de nous libérer de la lutte et du contrôle, justement, via le pouvoir de l'eau. Et tu fais des corrélations entre l'eau, les émotions et la santé physique. Alors ça, c'est très intéressant d'expliquer ça à nos auditrices et nos auditeurs, Nasrine.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par l'eau. Par l'eau qui est le premier composant du corps physique.
Et d'ailleurs, au moment où elle nous parle, elle a évidemment sa bouteille d'eau à côté d'elle.
Oui, elle est fidèle à son poste.
Oui, c'est ça.
Mon corps physique, oui, aime, apprécie d'avoir ça dans son champ de vision pour qu'il puisse librement y accéder. Et vois-tu, en fait, cette découverte, elle s'est faite déjà à travers ma propre vie, à travers les problèmes physiques qu'il y a eu aussi, notamment des phases de dépression. Donc, quand je te disais que j'étais en lutte, là, terriblement, quand j'ai su que je n'étais pas comme les autres, j'étais en lutte.
Tu étais jeune à ce moment-là. Hein.
Ouais, là, j'avais 15 ans. Là, j'étais en pleine lutte à 15 ans.
Oui, l'adolescence.
L'adolescence, c'était, c'était la pire lutte, mais aussi la plus révélatrice. Alors, ce que j'ai pu observer, c'est que les thérapeutes, les médecins, pour le peu que j'en ai vu, parce que j'aime pas trop donner comme ça mon pouvoir aux autres, j'aime bien l'écouter, mais je suis très sceptique. Donc, j'aime bien être servie par moi-même et valider les informations par moi-même. Mais j'ai bien remarqué qu'à un moment donné, j'étais limitée. Les douleurs, elles disparaissaient pas, la dépression, elle me collait à la peau, voilà, c'était le grand 8 émotionnel. Et à un moment, le matin, je me suis réveillée et j'avais tellement soif, une soif incroyable, comme si j'avais passé un mois dans le désert, j'avais vraiment l'impression. Puis j'étais vers cette bouteille d'eau, que je n'avais pas l'habitude d'avoir de l'eau à mes côtés à ce moment-là. Et donc, j'ai bu une première gorgée. Et j'ai senti à ce moment-là, je ne sais pas vraiment comment expliquer cet événement, mais j'ai senti à ce moment-là que tout se relâchait dans mon corps. Tout. Les douleurs, les crispations, la crispation même au niveau mental, il y a tout qui relâchait à cette gorgée d'eau. Et là, j'ai ces voix qui me parlaient, qui tout d'un coup m'ont demandé d'écrire à ce sujet. Donc, je faisais de l'écriture automatique, du channeling, comme certains appellent ça, et donc j'ai commencé à écrire pas mal de pages là-dessus. Et en accompagnant des gens, j'ai pu constater que si le corps est déshydraté, s'il n'a pas sa première énergie, comme la voiture qui n'a pas son essence, lui ne peut pas fonctionner correctement. Il doit donc réduire certaines fonctions. Si le corps doit réduire certaines de ses fonctions, le mental doit faire pareil. Donc il commence à se fatiguer. On est plus fatigué, on n'arrive pas à se concentrer, on est désorienté, on est confus. Et le système émotionnel suit. Donc il devient beaucoup plus sensible, on devient beaucoup plus susceptible. Donc ce que j'ai pu observer par rapport au taux hydrique, en fait, c'est qu'il détermine vraiment notre bien-être quelque part, notre santé. Et ce qui est très intéressant dans l'eau, on en sait tellement peu sur l'eau encore à l'heure actuelle, c'est que l'hydrogène, c'est surtout ça qui nous intéresse, constitue au fait, va créer des ponts, c'est comme nos câbles qu'on a là qui relient à ton micro, tu vois, entre les cellules pour que les cellules puissent communiquer. Donc l'eau, fondamentalement, elle va faire quoi? Elle va relier toutes nos cellules comme un gigantesque réseau pour que tout puisse communiquer ensemble. Donc la santé, pour moi, repose sur cette communication, cette libre circulation. Et si on n'a pas assez d'eau, ces liaisons-là, elles se rompent. Et donc on se retrouve dans un état de stress qui peut découler sur des déséquilibres physiques, psychiques et émotionnels.
Elle est comme une sorte de grand véhicule de notre homéostasie, quelque part?
Absolument, la fondatrice même de l'homéostasie, pour moi.
La fondatrice. Et à partir de là, tu as senti que tu as démarré un chemin de guérison. Tu parlais de dépression et de grand vide émotionnel.
Oui.
Et le fait d'avoir cette conscience t'a permis vraiment de te soigner ?
Absolument. Absolument. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était la plus belle odyssée intérieure que j'ai pu faire à ce jour, si je devais comparer avec d'autres. Parce que le fait de ne pas avoir de répondant à l'extérieur, de ne pas avoir de solution, d'avoir des médecins qui ne savent pas quoi faire, des psychiatres, des psychologues qui se disent ben, « on ne sait pas quoi faire de vos voix, là, Madame Reza », ça te met tellement dans une forme d'isolation, d'extrême isolation, que c'est magique à ce moment-là, parce que tu deviens ton propre point de repère. Mmh. Tu ne peux que te fier à toi. Et au moment où ton attention, elle revient avec cette force sur cet espace intérieur, d'un coup, tu es dans une explosion de révélation. Mmh. Ça fait comme l'effet pop-corn. Tout devient clair. C'est des évidences les unes après les autres. Et tout devient clair, évident. Et toute la dynamique de vie change. On est beaucoup plus à l'écoute. On fait de notre équipe terrestre notre priorité, de manière très égoïste même, tu vois. C'est vraiment, j'écoute ça d'abord, parce que ça, c'est ce qui est juste et bon pour ça.
Pour ça. Ce que tu dis, Nasrine, pour certaines personnes, peuvent paraître simplistes, dans le sens où ils pourraient se dire, ah bah tiens, il suffit de boire de l'eau et d'avoir une bonne homéostasie au niveau hydrique pour que finalement, on ne soit pas malade, etc. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'il y a des choses à connaître, c'est-à-dire une façon de boire de l'eau, une qualité d'eau particulière, dis-nous tout.
Oui. C'est là une question pertinente, merci Anne. Alors, en effet, ça peut paraître très simpliste comme approche. Il est vrai que c'est étrange, tu sais qu'on parle si peu d'eau, même mes amis médecins et les participants médecins disent toujours « moi, on m'a jamais parlé d'eau dans mon cursus, donc c'est un peu banalisé ». Banalisé aussi parce qu'on n'a pas encore suffisamment fait de recherche, à mon humble avis, au sujet de l'eau. Alors, boire de l'eau, est-ce qu'il suffit de boire de l'eau pour guérir ou pour se sentir mieux ? Moi, je ne veux pas prétendre que boire de l'eau, ça va guérir, mais ça va mettre toutes les chances de côté pour que le corps ait suffisamment d'énergie pour faire ce qu'il a à faire. Donc, on met les chances de côté. Je ne dis pas que ça guérit, mais on essaye de mettre les chances de côté. Boire de l'eau, certes, si on est stressé, il faut s'imaginer, quand on est stressé, tout est crispé à l'intérieur. Nos cellules, qui comportent les portes d'ouverture à l'eau, elles se ferment aussi. Donc, boire de l'eau, quand je suis super stressée, ça va rien changer au niveau cellulaire, du moins pour l'intérieur de la cellule qui, elle, a besoin d'eau pour pouvoir fonctionner. Donc la première chose que j'invite à faire, c'est de boire de l'eau en conscience. Il ne s'agit pas de se noyer dans l'eau, il s'agit d'en boire en conscience, d'en avoir à portée de main. Je dis toujours aux gens que j'accompagne, ayez de l'eau à portée de main, dans votre sac à main, dans votre voiture. Comme ça, le corps voit l'eau et quand il en a besoin, il va aller vers naturellement. Notre besoin en eau diffère d'un être humain à un autre. On a 7 milliards de possibilités environ. Et les besoins diffèrent aussi et sont aussi en lien, en fait, ces besoins sont en lien avec ce que je vais vivre aujourd'hui. Donc, fondamentalement, mon état de lutte, si je suis très stressée, ça va beaucoup plus déshydrater le corps. Oui. Donc, mon corps va me demander normalement plus d'eau ou de manière plus régulière. Après, ça dépend aussi si j'ai une activité physique. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que le stress est vraiment le pire ennemi pour le corps physique. Et le stress, en règle générale, est induit par un refoulement émotionnel. Donc, quand l'être humain est face à une émotion et qu'il se dit « j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être en colère ou d'avoir peur », il génère un stress qui va déshydrater le corps. C'est pour ça qu'on va travailler, entre guillemets, sur deux plans. Ce sera boire de l'eau de manière consciente et aussi accueillir l'émotion. Se donner le droit d'être dans cette émotion. Parce que c'est ce qui génère l'ouverture des portes cellulaires.
Quand on veut boire en conscience, comment est-ce qu'on fait tout simplement, Nasrine ?
Moi, j'invite, la manière la plus simple au début, c'est que j'invite à fermer les yeux, à porter le verre d'eau. Vraiment, on met les lèvres en contact avec l'eau, on ferme les yeux. C'est comme quand on donne le biberon à un nourrisson. On lui met le biberon. Pardon ?
Ou le sein.
Ou le sein, exactement, exactement. Donc, on le met en contact avec sa source d'énergie et on laisse le biberon dans la bouche. Donc, on va mettre de l'eau, on va mettre le verre en contact avec les lèvres du corps physique. Et on va rester dans ce contact-là jusqu'à ce que le corps rejette le verre. C'est donc par une fonction mécanique, le corps physique nous parle toujours, par une action, non pas par une intellectualisation disant « j'ai assez bu ». Ça, c'est le mental qui va dire. Mais le corps physique, lui, comme le nourrisson le fait, il va recracher le biberon ou le sein pour dire « j'ai assez bu ». Donc, c'est en fermant les yeux au début, parce que quand on ferme les yeux, l'attention revient à la maison. C'est beaucoup plus simple d'être à l'écoute du corps physique de cette manière.
parfois, c'est vrai qu'on peut se surprendre à boire d'un seul coup. On a l'impression qu'on est complètement déshydraté. Mmh. On boit. Ça, c'est OK
avec bien ça. Bien sûr.
C'est vraiment un ressenti.
C'est un ressenti. En fermant les yeux, et j'ai envie d'ajouter aussi Anne, en étant relaxée. Alors, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Le mieux, moi, je dis, c'est de boire de l'eau debout durant les 3 premiers jours. Comment ? En fléchissant, un genou. Tu sais, tu te mets en mode cool, hein, ou comme le surfeur sur sa planche. Mmh. Donc, on veut vraiment mettre le corps dans une posture très relaxée.
D'accord.
Et dans cette relaxation-là, je peux beaucoup plus être attentive aux besoins du corps physique.
Donc, on se met dans cette position cool, les genoux, au moins des deux genoux un peu relaxés. Et là, on fait le test avec un verre d'eau pour voir si, effectivement, on en a besoin ou pas.
Exactement.
Et on fait ça 3 premiers jours. C'est pour donner vraiment ça, c'est informationnel. C'est pour donner l'info au corps d'avoir conscience ou pas de ce besoin.
Exactement, Anne. C'est tout à fait ça. Exactement. Là, je me reconnecte, je recrée une communication de base avec le corps physique. Et à nouveau, si le corps est relaxé dans cette posture de surfeur, état cool, il ne peut pas être stressé. Alors, quelqu'un qui est stressé, tu lui demandes de faire le surfeur, le stress va disparaître instantanément. C'est pour ça qu'on met dans des postures qui, a priori, peuvent paraître un peu bizarres, mais c'est des outils tellement simples. Et la vie est simple.
Oui. C'est ça qui est bien, c'est que les outils simples sont à la portée de tout le monde, exact. Et c'est là qu'on reconnaît leur grande sagesse finalement. L'être humain ne serait pas né avec des outils compliqués, j'ai toujours pensé ça.
Oui, exactement. Oui, je suis tout à fait de ton avis.
Alors au bout de 3 jours, pourquoi tu dis 3 jours? Tu penses qu'au bout de 3 jours on a la bonne information, c'est suffisant?
Alors je pense que de fermer les yeux, surtout de fermer les yeux et de boire en fléchissant un genou, pendant les 3 premiers jours, ça va recréer en fait, ça va réharmoniser ma relation au corps physique. Mmh. Donc, par expérience et parmi toutes les personnes que j'ai pu accompagner, j'ai pu observer qu'en dessous de 3 jours, c'est pas assez. Et au-delà de 3 jours, c'est très bien aussi. Hein. Donc, si on veut continuer à le faire, c'est parfait. Mais pour ce que j'ai pu voir, ces 3 jours-là sont vraiment nécessaires.
Mmh. J'imagine, toi qui t'intéresses à l'eau, que tu t'es intéressée évidemment aux travaux du chercheur japonais Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Et c'est vrai que, bon, qui est controversé en tant que chercheur, mais peu importe. En tout cas, est-ce que c'est important aussi d'envoyer cette conscience à l'eau, d'être peut-être en amour, en paix avec elle? Alors, simplement pour nos auditeurs et nos auditrices, ce chercheur a fait des études en photographiant des molécules d'eau et en fonction de ce qui était envoyé effectivement à l'eau, soit des musiques plutôt classiques d'amour, de paix et de lumière, ou plutôt des musiques beaucoup plus dures, violentes, etc., ou même des mots, l'appel, l'amour ou la guerre, on voyait la structure moléculaire de l'eau qui se modifiait.
Oui, c'est là des recherches très intéressantes qui ont été menées. Et vois-tu, très chère Anne, alors ce n'est pas pour discréditer les recherches qui ont été faites. Moi, je suis très sceptique de base. Donc, ce que j'ai pu découvrir par la suite, c'est que fondamentalement, ce n'est pas la molécule d'eau qui est là dans ma bouteille d'eau qui va générer un bien-être ou un mal-être dans le corps physique. C'est mon attitude intérieure face à ce que je viens à gérer. Donc, si je suis dans un état relaxé et que mes portes cellulaires sont ouvertes, elles vont pouvoir absorber l'hydrogène. Maintenant, par rapport aux recherches que lui a fait, en disant si j'envoie le mot N, les cristaux vont avoir une configuration, on va dire, déformée. Et si j'envoie de l'amour, ce sera harmonieux. Il y a des chercheurs, je crois que c'est à San Francisco, qui se sont amusés à faire les mêmes expériences. Et ils ont constaté que si on place quelqu'un à faire cet exercice face à une bouteille d'eau, à des cristaux d'eau, et à s'imaginer que là, on envoie de la haine ou de l'amour, mais qui n'a pas d'a priori face à ces deux énergies, mm-hmm. les cristaux d'eau ne bougent pas. Donc, c'est à nouveau, c'est pour moi très, c'est très subjectif. Toutes les recherches restent pour moi de l'ordre de la subjectivité de celui qui fait l'expérience et qui va projeter les résultats. Donc, il n'est pour moi pas nécessaire, pour résumer ta question, d'aller projeter quoi que
D'accord.
ce soit.
C'est ça, c'était le sens de ma question. Tu parles de l'hydrogène. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse faire la même chose avec l'air, quelque part? C'est-à-dire que Là, on est en conscience avec l'eau. Tu dis que l'eau envoie cette information au corps. On sait qu'on est constitué d'eau à combien, 80% peut-être?
Oui, on peut dire ça.
Enfin, les chiffres varient, oui. 70, oui, j'ai lu un peu de tout là-dessus. Oui, en tout cas, on a beaucoup d'eau dans le corps. Et est-ce qu'on peut rétablir cette homéostasie avec l'oxygène également?
On peut rétablir avec absolument tout. Or, s'il n'y a pas assez d'eau dans le corps, on ne peut pas passer à l'oxygénation. C'est vraiment c'est le terrain de base.
D'accord.
Si le corps n'est pas hydraté, c'est comme mon jardin. S'il n'est pas hydraté, peu importe ce que je vais semer, ça ne va pas prendre, ça ne va pas pouvoir prendre, ça ne va pas pouvoir survivre. L'invitation ici, c'est vraiment au final, c'est quoi? C'est de prendre conscience, d'être le maximum possible en connexion avec cette entité corps, mental, émotion, cette équipe terrestre. Et plus mon attention est portée sur elle, plus elle va se relaxer, plus elle va respirer de manière appropriée aussi. Ça va se donner dans un élan naturel après.
Qu'est-ce que tu as observé comme différence entre des personnes qui se sont mises à faire effectivement à boire de l'eau en conscience et des personnes qui ne le faisaient pas avant? Est-ce que tu as vu des chemins complètement se bouleverser, se modifier à la suite de cela?
Absolument, Anne. Alors, les personnes qui buvaient de l'eau en conscience et qui accueillaient leurs émotions pour éviter un accroissement de l'état de stress, ont littéralement bouleversé leur vie, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que toute leur dynamique, toute leur façon de s'appréhender soi-même a changé. Donc, la façon d'approcher la vie extérieure a changé inévitablement aussi. Donc, tout s'est adouci. Les gens qui ont, avec conscience, bu de l'eau et qui ont porté leur attention sur eux-mêmes tout en accueillant les choses difficiles de la vie, ont une vie beaucoup plus légère. c'est indéniable, peu importe les circonstances extérieures, ça devient léger à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, mais c'est de la souffrance qui peut être vécue de manière légère.
C'est ça. Alors, c'est ton autre deuxième grand sujet dont tu as déjà parlé et qui vont de pair. Hein. Pour toi, tu les as vraiment liés. Qui est ce pouvoir de l'accueil. Tu as écrit un bouquin aussi sur un livre sur ce sujet qui permet de guérir nos blessures quand on leur donne quelque part la permission d'exister. C'est ce que tu dis?
Oui, tout à fait, Anne. Le pouvoir de l'accueil. En effet, c'est, pour moi, c'est la fragrance naturelle de l'être humain. Tous les êtres humains naissent avec ce pouvoir d'accueil parce qu'on observe un enfant en bas âge, il n'est pas dans un état de lutte intérieure face à son corps, ses pensées ou ses émotions. Donc, c'est propre à tout être vivant, même j'ai envie de dire. Et ce pouvoir d'accueil est à la portée de tous. C'est juste qu'on a formaté l'être humain à devenir le grand guerrier, le grand dompteur de sa vie qui doit gérer en toutes circonstances tout. Pourquoi? Par peur de ne pas être aimé fondamentalement. Je crois que c'est ça le virus de l'humanité. Et le pouvoir de l'accueil pointe souvent sur ce sujet. Va dire, mais est-ce que tu fais ça parce que c'est juste et bon pour toi ou parce que tu as peur? Donc, on va fondamentalement accueillir la peur qui est omniprésente en ce monde.
Alors, est-ce que... Alors, c'est sûr qu'on imagine que le cerveau reptilien de l'être humain, au départ, il vivait ses peurs, c'était une question de survie. Mmh. Hein, donc, il accueillait ses peurs un peu comme il pouvait. À quel moment le petit enfant, lui, perd cette conscience de l'accueil de ses peurs? Et c'est vrai qu'on voit les enfants, ils le font naturellement. C'est-à-dire que j'ai peur, j'ai mal, je souffre, eh ben je me mets à pleurer. Les pleurs sont vraiment des messagères extraordinaires de consolation, typiquement.
Absolument, absolument. De précieux, précieux messagers. Alors, je ne peux pas répondre à la question de manière globale parce que ça dépend d'un enfant à un autre. Et surtout, ça dépend de son système éducatif, l'environnement dans lequel il est baigné. Il y a bien des peuples encore aujourd'hui qui vivent dans un accueil de ce qui est, hein, qui ne connaissent pas ce formatage auquel nous faisons face ici dans nos pays, disons, industrialisés. Donc, c'est vrai que par le système éducatif, parce que ce qui a été inculqué aux parents, il a peut-être tendance à réprimander l'enfant s'il est dans une crise, au lieu de lui dire « t'as le droit d'être en colère, mais tu vois, maman ou papa n'ont pas envie de se casser les oreilles, alors tu peux aller faire ta crise dans ta chambre, mais t'as le droit d'être en crise ». On n'a pas cette approche-là encore, elle n'est pas instaurée non plus au sein des écoles, donc... Ça dépend vraiment d'un individu à un autre, mais inévitablement, à un moment donné, la lutte apparaît et l'enfant se retrouve confronté à « est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit d'être comme ça ou pas ?» Mais la peur de ne pas être aimé est toujours sous-jacente. C'est vraiment le virus qui a infecté la conscience collective.
Est-ce que c'est un virus qui nous a infectés ou est-ce que c'est aussi ce que nous devons peut-être quelque part expérimenter en tant qu'humains?
Ah oui, je pense que c'est absolument nécessaire. La peur de ne pas être aimé amène à la lutte, à la lutte contre soi. Et à un moment donné, cette lutte devient tellement extrême qu'on ne peut pas lutter plus. Et c'est là où tout bascule, où tout change. Donc, je pense que mon invitation ici, par rapport à ce que je dis, c'est pas qu'on peut éviter la lutte aussi chez l'enfant, qui à un moment donné se retrouvera confronté à cette énergie. Je pense qu'il faut donner la liberté à la lutte d'exister, parce que le pouvoir de l'accueil est inclusif. Donc donner la liberté aussi à l'être, d'être confronté à la peur de ne pas être aimé. On ne veut pas la libérer ni l'éradiquer. On veut la voir, la mettre en lumière et lui dire « t'as le droit d'exister ». Mais je te vois, j'ai conscience. Donc on passe dans un autre... C'est comme si un autre état de conscience se mettait en place finalement. Mmh. Tout est observé et quand c'est observé, une autre réalité s'offre à nous naturellement.
Alors comment faire concrètement pour être dans le pouvoir de l'accueil ? Est-ce que tu peux nous l'enseigner ?
Alors, il y a des bases très simples. Mmh. Ça commence par l'eau.
Oui.
Parce que je ne peux rien faire si mon jardin ici n'est pas hydraté. Je ne peux pas ensemencer ce jardin. Donc, boire de l'eau de manière consciente. La deuxième chose, c'est être un maximum à l'écoute de cette entité corps, mental, émotion. D'éviter peut-être, j'ai même, ça peut paraître radical, mais peut-être même d'être un peu plus sceptique face à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, afin de ne pas emmagasiner encore plus d'informations au sujet de cette entité-ci. Donc d'aller explorer par soi-même, être sceptique, c'est la deuxième chose. Boire de l'eau, être sceptique. La troisième chose, c'est avoir mon attention le plus possible portée sur le système émotionnel. Le système, pourquoi ? Parce que si je suis consciente d'une tristesse, par exemple, et que j'accueille cette tristesse, je vais accueillir la tristesse ou l'émotion, c'est comme faire un package. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'accueille la tristesse. Dans cette tristesse, il y a quoi ? Il y a tout un système de pensées qui vient se greffer à elle. Donc, ça veut dire que j'accueille en même temps toutes ces pensées qui sont en écho avec cette émotion, mais j'accueille aussi toute la crispation et les douleurs ou les maladies associées à cette tristesse. C'est pour ça que je pointe toujours vers le système émotionnel. C'est un raccourci. Donc, j'invite humblement à être le plus souvent observateur de nos émotions et de dire à cette émotion, tristesse par exemple, ma chère tristesse, je te donne le droit d'exister. Tu as le droit d'exister. C'est OK que tu sois là. Juste ça.
On lui parle comme ça à voix haute ?
On peut le faire, ça aide au début, ouais. Ça aide vraiment. Puis après, ça devient un dialogue intérieur. Le dialogue intérieur est tellement important. Mais notre attention est tellement souvent happée par ce qui se passe là à l'extérieur. On passe plus de temps sur Facebook que d'écouter ce qui se passe ici dans notre fort intérieur. Je trouve ça dommage par moments.
C'est sûr. Est-ce qu'on doit être vraiment à l'écoute physiquement de où l'émotion circule dans notre corps à ce moment-là ?
N'est pas nécessaire pour moi, Anne. Pour savoir si je suis à mon écoute, déjà juste pour donner un petit fil rouge, pour savoir si je suis maintenant connectée à mon équipe terrestre, j'observe la respiration du corps et je regarde s'il est tendu ou pas. S'il y a une tension quelque part, c'est que mon attention est déjà en train de partir ou est déjà focalisée sur autre chose. Donc la première chose, c'est ok, j'observe comment ça respire. Ok, par le bas du ventre, c'est pas thoracique, c'est pas stressé. Bien, est-ce qu'il y a une crispation quelque part ? Si c'est crispé, c'est que mon attention n'y est pas. Déjà, juste observer, ça, pour moi, est la base. Et ça paraît tellement simple, mais crois-moi, les gens, ils zappent ce passage qui, pour moi, est capital pour pouvoir construire une relation solide avec soi. Déjà, juste ça.
Mais c'est souvent dans ces grandes simplicités, finalement, qu'on ne va pas et qu'on oublie, alors que, comme tu dis, elles sont capitales.
Oui, parce qu'on nous a dit que ce qui est simple n'a pas de mérite, malheureusement.
Donc, il faut revenir à cette simplicité pour toi.
Ah, pour moi, c'est essentiel.
C'est ça que tu enseignes ?
C'est vraiment basé sur la simplicité. Les exercices sont très simples, ce qu'on partage, les observations restent simples. Le mental a besoin de repos, à mon humble avis. Tout a été tellement intellectualisé, interprété de mille et une manières et on essaie de se greffer aux interprétations d'autrui, alors que nous sommes uniques au monde et mon interprétation ne va certainement pas coller à celle de quelqu'un d'autre. Donc, la simplicité, c'est quoi ? C'est observer. Observer cette entité-ci sans laquelle je ne pourrais pas faire cette expérience. Être dans la gratitude aussi, être fier d'elle, ça augmente l'énergie. On a banni la fierté si souvent. Ce sont là des petits ingrédients de base qui changent tout. Ça augmente l'énergie, donc ça lui fait du bien, donc ça va tendre vers la guérison. Être trop sérieux, pour moi, c'est comme le stress, c'est terrible. C'est mauvais pour la santé.
Alors, tu parles du mental, c'est vrai qu'on a tendance à le voir un peu comme le grand méchant ou l'ego en fonction des mots. Alors qu'en fait, il fait partie de nous, il fait aussi partie de nos masques, de nos sous-personnalités, si on veut aller par là. Et il n'est pas à bannir, mais à accueillir comme le reste.
Exactement, Anne. Absolument, il est lui aussi à accueillir. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose. quand on observe le mental tout au début, on se rend compte qu'un enfant naît sans principe, sans conditionnement, sans pensée précise à son sujet ou au sujet de ce qui l'entoure. Donc pour moi, le mental est un espace neutre au départ. C'est que le conditionnement est venu stocker ses informations en lui et souvent on confond les deux, le conditionnement et le mental. Mais le mental, peu importe, on essaye de le faire taire, on veut qu'il ne soit plus agité, comment c'est possible? Mon Dieu, on est tous interconnectés, 7 milliards d'individus. Comment ne pas recevoir les informations d'autrui? Sauf qu'on croit souvent que nos pensées sont les nôtres, on se les approprie, on se dit « pourquoi est-ce que j'ai encore ce genre de pensée ?» C'est peut-être les pensées de ton voisin, peu importe à qui elles appartiennent, peu importe l'état de notre mental. Je pense que la voie directe de la guérison et d'un bien-être inébranlable repose sur le pouvoir de l'accueil.
Les croyances, est-ce que ce sont encore une fois des messagères pour nous informer et cheminer avec elles? Faut-il s'en débarrasser à tout prix? Comment est-ce qu'on peut accueillir nos croyances et nos conditionnements?
Alors, déjà en les observant, en regardant vraiment, je la prends là devant moi et je l'observe. Puis je me demande, tiens, est-ce que je suis née avec cette croyance ou est-ce qu'elle m'a été inculquée? Bon, ben on verra que elle m'a été inculquée. Bien, alors, elle m'a été inculquée, mais est-ce qu'elle m'est bénéfique là maintenant? Juste pour maintenant, pas dans ma vie, parce qu'on aime faire des extensions. Mais si on fait des extensions, ça voudrait dire que je n'évolue pas, que je suis toujours pareil, que je suis un robot avec un programme. Tac, ça c'est ta croyance et tu vas devoir vivre comme ça toute ta vie. Et donc, je la regarde et puis je me demande, mais est-ce que cette croyance-là maintenant, pour moi, est-ce qu'elle est limitante? Est-ce qu'elle me libère? Qu'est-ce que ça génère dans le corps? Tiens, je vais regarder. Comment ça respire si je me dis, je manque de confiance? Est-ce que ça se crispe quelque part ou pas? Je vais observer. Donc, j'invite toujours à cette observation, à mettre en contact avec le corps physique et de valider par son comportement à lui. C'est beaucoup plus simple. Si on passe par le mental, on passe par le conditionnement. Et lui va dire, bien sûr que tu manques de confiance, regarde l'autre jour, t'as pas assuré. Donc, le corps, lui, ne peut pas mentir face à une information.
C'est vrai que c'est pas toujours facile d'identifier et de discerner quelles sont nos propres croyances.
En effet, je crois fondamentalement qu'il n'y en ait aucune qui nous appartienne. Parce que pour moi, l'être humain est un être libre, imprévisible, voire même indomptable au fond. Donc c'est dans une énergie de liberté dans laquelle il baigne fondamentalement. Les croyances sont là pour que ça puisse après fonctionner dans une certaine structure. Mais si on se greffe à une croyance, si on colle une croyance sur nous, le seul problème, c'est qu'on risque de ne pas faire d'autres découvertes. C'est limitant dans ce sens. Mais elle peut être bénéfique maintenant. Si je me dis, maintenant je me sens en pleine confiance, c'est trop cool, je peux l'utiliser maintenant. Mais une fois que je l'ai utilisée, je la mets de côté. Je ne stocke pas tout.
Tu poses aussi cette question, que ferions-nous si nous n'avions plus peur?
Oui, absolument. Alors, que ferions-nous si nous n'avions plus peur? J'explique toujours qu'il ne s'agit pas de ne plus avoir peur. Quand je le formule comme ça, c'est dans un texte et je ne peux pas mettre tout l'explicatif sous le texte.
C'est pour ça que je te la pose comme ça tu vas pouvoir expliquer.
Je trouve ça parfait, merci. Je trouve ça tellement pertinent, j'adore ta finesse. Mais donc, que feriez-vous si vous n'aviez plus peur? Le « n'aviez plus peur » veut dire « que ferais-tu si tu accueillais complètement la peur ?» Parce que quand tu accueilles complètement la peur et que tu surfes avec cette vague, si on s'imagine que c'est une vague, la peur, et que je suis le surfeur de cette vague, qu'est-ce que je ferais avec elle? Vers où est-ce que ça m'amènerait? Qu'est-ce qu'elle me permettrait de découvrir en moi, à l'extérieur de moi? Elle est là la question. Donc c'est plus ne plus avoir peur dans le sens libérer, bannir ou annihiler, mais dans le sens surfer avec, aller avec le mouvement. Parce que la peur, elle nous fait avancer, elle nous fait faire des sauts quantiques.
C'est pour ça que tu dis aussi que l'union fait la force, c'est-à-dire qu'on peut en faire une alliée de la peur.
Oui, absolument. Que ce soit la peur, la colère, la tristesse, la joie, toutes nos émotions, le mental, le corps physique, pour moi, ce sont des fidèles alliés. Et c'est comme mes collaborateurs finalement. Si j'ai une entreprise et que je veux faire fructifier mon entreprise, il faut avoir une bonne relation avec les collaborateurs. Oui. Donc c'est pareil pour eux, pour l'équipe terrestre.
L'erreur est un leurre. Tu dis qu'elle n'existe pas en réalité. Je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que beaucoup de gens sont dévastés par leurs échecs. Ouais. Au lieu de se dire qu'ils sont justement ces fameux alliés là dont tu parles, comme le reste des émotions, le corps physique, etc.
Oui, c'est vrai que en accompagnant aussi, tu sais, Anne, beaucoup de personnes en fin de vie, ça revenait souvent ça. Ah, j'aurais pas dû, si j'avais fait, quelle horreur, comment je vais pouvoir pas. Des regrets, voilà. Or, l'erreur n'existe pas. Et puis, l'erreur, c'est l'erreur est un leurre. En effet, parce que la vie nous présente des situations qu'on a à vivre à ce moment-là. Si je suis au beau milieu de l'océan, pour moi, l'être humain est baigné dans l'océan qu'est la vie. Il est porté par une vague. Il ne peut pas sauter à 10 vagues plus loin pour se dire « je serais mieux là-bas qu'ici ». C'est un mouvement qui le porte. Donc, il n'a déjà pas vraiment le choix face aux circonstances qui se présentent à lui. Il peut être dans l'accueil ou dans la lutte, mais face à la circonstance elle-même, la situation, il ne peut pas choisir. S'il ne peut pas choisir la vague, où est-ce qu'il y a de la place ici pour l'erreur ?
Bien sûr.
Mais l'erreur, quand les gens sont dans cette dynamique où ils se disent « mais pourquoi j'ai fait ça ?» et qui sont dans ces regrets, il y a une émotion derrière qui se cache parce qu'une émotion a besoin d'un support et c'est là un merveilleux support pour une émotion d'être vue. Par exemple, avant de mourir, quand j'accompagnais les personnes en fin de vie. Donc, l'erreur est un leurre, ça dépend tout du point de vue qu'on a aussi. Mais je pense que si on prend avec nous notre mémoire et qu'on essaye de faire des choix à partir de nos erreurs passées, alors on va juste recréer des mêmes schémas. On ne va jamais pouvoir sortir de nos conditionnements qui nous ont été inculqués. Or, si je laisse la mémoire derrière moi et que je dis « Ok, avant-hier, j'ai fait comme ça et c'était juste et bon pour avant-hier ou pas », aujourd'hui, j'ai évolué, je ne suis plus comme avant-hier. Toutes mes cellules se sont renouvelées, je suis un être à chaque fois neuf quelque part. Donc, j'aime donner cette liberté-là. J'aime quand les gens s'amusent avec cette liberté-là.
D'ailleurs, tu parles beaucoup de devenir son propre guide. C'est quelque chose qui est très important pour toi d'accompagner les personnes à être quelque part, non pas en autosuffisance, parce qu'on a toujours, on se construit avec l'autre.
Oui.
Et l'autre est un miroir extraordinaire pour nous, humains. L'autre, les situations, tout ce que nous sommes amenés à vivre. Mais en même temps, il y a une espèce de... Dans cette idée d'odyssée intérieure, j'allais dire une injonction, mais une belle injonction que tu donnes aux gens, vraiment soyez votre propre guide pour ramener à l'intérieur de moi où est ma force, quelque part. C'est ça que je sens chez toi.
Oui, Anne, merci. Merci de mettre ça en lumière. C'est vrai qu'il me tient, terriblement à cœur que les personnes puissent être leur propre point de repère, de réaliser qu'elles sont uniques au monde et qu'elles sont seules à savoir ce qui est juste et bon pour elles. Et que personne ne peut savoir cela à leur place. Ça, tu sais, ça te donne une telle liberté d'exploration. Tu n'as plus peur de faire faux, parce que tu ne te compares plus. La normalité disparaît. Toutes ces choses, et la normalité fait beaucoup souffrir l'humain. Quand il n'y a plus ça dans
Qu'est-ce que la normalité ?
Déjà, elle n'existe pas, mais on en parle tellement souvent. Pour tout, que ce soit au niveau alimentaire, dans le couple, être parent, on essaie de suivre une espèce de normalité qui rend l'être humain tellement robotique. Et quand on est notre propre guide, et l'invitation ici est simple à nouveau, c'est avant de manger ce qu'on t'offre, valide par ton savoir inné, par ton intuition. Regarde comment ça résonne pour ton corps. Lui va te dire.
Bien sûr. Tu dis que le divin n'est pas en nous, il est nous. J'aime beaucoup, j'en suis persuadée également.
Oui, tu sais, j'ai envie de dire qu'on peut presque revenir à ce que tu as évoqué tout au début quand on parle de l'observateur et de l'être humain, que l'être humain est comme une extension de cette conscience divine quelque part et qui s'expérimente à travers toute chose. Le divin n'est pas en nous, il est nous. C'est l'essence qui est là, qui a toujours été là et qui se déploie sous différentes formes. Mais quand on en revient à observer ce qui est antérieur à l'apparition même de cette forme humaine, on se rend compte que cette énergie divine, on ne peut pas dire qu'elle est intrinsèque à nous, on ne peut pas dire qu'elle est nous non plus parce que ça nous sépare déjà de la chose. Donc on ne peut pas dire grand-chose à son sujet à part être dans le silence et sourire.
C'est ça. Ce serait ça, observer dans le silence et sourire, vivre une spiritualité incarnée quelque part en conclusion.
On pourrait dire ça, oui, on pourrait vraiment dire ça, Anne. En effet. Observer, sourire, se rendre compte que rien n'est permanent dans tout ce qui est observable. Tout ce qui est observable ne peut pas être ce que je suis fondamentalement et ce n'est pas permanent. Donc, à quoi bon trop s'accrocher ? À quoi bon trop se compliquer ? Permettons à l'être humain de vivre léger durant ce court passage sur Terre. Il ne va rien emporter avec lui, donc on ne va pas trop l'encombrer non plus. Donc, quand il y a cette dynamique de légèreté et de sourire, ça change la dynamique de l'être humain automatiquement.
C'est ça ton espérance aujourd'hui pour le monde, Nasrine ?
Je n'ai pas vraiment d'espoir parce que l'espoir pour moi ne fait pas vivre, c'est plutôt destructeur. Parce que si j'espère quelque chose, c'est que je ne suis pas dans l'accueil de ce qui est maintenant. Je n'ai pas d'espoir face à l'humanité. Je trouve que cette grande mise en scène qu'est la vie jusqu'à maintenant, elle s'est super bien autogérée. Donc, je peux juste dire, continuons à observer. Et on n'a pas besoin de lui faire confiance non plus. Pour moi, c'est un concept parmi tant d'autres, mais juste continuons à observer la perfection de ce qui se manifeste à chaque instant et qui nous est offert gratuitement.
En même temps, nous avons cette conscience par rapport à l'espérance que nous sommes des êtres en devenir, comme le disait, je sais plus si c'était Krishnamurti ou la mère, ou Sri Aurobindo. En tout cas, non, je crois que c'est Sri Aurobindo qui disait ça. Nous sommes des êtres en devenir. L'espérance peut aussi... si nous avons cette conscience-là, elle nous permet quelque part d'être aussi dans la joie de l'instant présent.
Oui, bien sûr, à nouveau.
Elle n'est pas forcément une projection.
Non, tout à fait. Si cet espoir-là est juste et bon pour toi et que tu vois que ça te fait du bien, alors prends-le, vis-le, savoure-le, mais ne t'y accroche pas, parce que même lui va disparaître à la fin de cette belle aventure terrestre.
C'est sûr. Nasrine Reza, merci infiniment pour toutes ces inspirations fulgurantes, on peut le dire, chez toi. On sent qu'il y a vraiment cette transmission innée qui passe vraiment, et la lumière qui passe à travers toi. Je ne peux que recommander de te retrouver sur internet www.nasrinereza.com pour suivre tes stages, ateliers, formations, conférences, évidemment tes livres, Le pouvoir de l'accueil, La Nutri-Émotion, Power to Bloom et d'autres. Nasrine Reza, merci.
Merci infiniment à toi, très chère Anne. J'étais ravie de partager ce moment avec ta belle lumière.
Ah oui, moi de même, merci. C'est super. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel.
Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.